France Musique. Comme si vous y étiez, Jérémy Rousseau, France Musique.
Paganini court dans tous les sens, c'est comme si vous y étiez. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Quello che faccio oggi? Dans quelle ville? À quelle heure? Et où est la diligence, s'il vous plaît? Et le programme ce soir, c'est quoi, au fait? Vous dites, mon cher? Rien? Aucun concert? C'est curieux, ça. J'aurais pourtant juré. Bon, si vous le dites. Pardon? Si je profitais d'une pause? Une pause d'une journée complète? Une journée d'oisiveté? Une journée, c'est peut-être un peu beaucoup. Rien que quelques heures à ce moment-là. Allez, disons une heure. Une petite heure. Pas gagné, mais je vais essayer, promis. Cercherò. Ah, ça me rappelle des choses, cette conversation. Je croyais toujours, même quand je n'avais pas de concert prévu, qu'on allait m'en ajouter un à la dernière minute. Vous savez, d'où je suis aujourd'hui, ça m'amuse beaucoup de repenser à tout ça. Je m'appelle Niccolò Paganini et j'ai été l'homme le plus pressé de ma génération. Mettons ça au présent si vous voulez bien. Même si je ne suis plus de votre monde, je le hante encore et ma musique parle pour moi. Je m'appelle donc Niccolò Paganini et je suis l'homme le plus pressé de ma génération. Ainsi qu'un très bon compositeur. Et surtout, surtout, le plus grand virtuose du violon que l'histoire ait jamais connu. Vous me direz qu'il y en a eu d'autres après moi, d'accord. Des virtuoses qui ont, eux aussi, écrit pour le violon. Bazzini, Viotan, Wieniawski, Sarrasate. Mais pardon, c'était quand même à un degré en dessous de mon art, de ce que j'ai inventé, de ce que j'ai légué, de ce que j'ai fait de mon vivant. Si vous saviez ce qu'on a écrit sur moi, Niccolò Paganini. Ça n'est pas pour me vanter, mais il faudrait des heures pour énumérer les éloges sur mon art. Jamais, de toute ma vie, je n'ai entendu gémir un instrument comme celui-ci, a écrit un certain Rellstab après un de mes concerts à Berlin. Jamais je ne m'étais rendu compte que la musique puisse contenir de tels sons. Jamais je n'avais vu les Berlinois dans un tel état. Mais il a ajouté qu'il trouvait mon aspect physique déplaisant, qu'il y avait quelque chose de démoniaque en moi. N'exagérons pas. J'ai préféré ce qu'a écrit son confrère du Berliner Zeitung. Les éléments extérieurs de son style, qui sont le résultat d'un impossible tour de force, la combinaison archer-pizzicato, et les octaves sur une seule corde sont vraiment pour lui une bagatelle. Mais c'est la poésie intérieure de son inspiration, prenant forme sous nos yeux, qui fascine les auditeurs. Ce n'était plus un violon, ce n'était plus de la musique, mais de la sorcellerie. C'était pourtant toujours de la musique, mais d'un genre auquel nous ne sommes pas habitués. C'est Adolf Bernhard Marx qui a écrit ça lors de mon passage à Berlin en 1829. J'avais 47 ans. J'ai été assez touché, mais en même temps, c'était la stricte vérité. Que voulez-vous que je vous dise ? Allez, je ne résiste pas à quelques témoignages encore, de ceux qui vous font très plaisir. La reine Victoria en personne a écrit dans son journal, après m'avoir entendu au Covent Garden, « Paganini joua des variations de manière merveilleuse. C'est un homme curieux. » Je pourrais aussi vous citer Franz Liszt. « Quel homme, quel violon, quel artiste, quelle souffrance, quelle angoisse, quel tourment ces quatre cordes peuvent exprimer !» Et Schubert, dans l'adagio de Paganini, j'entendis le chant des anges. On ne verra jamais personne comme lui. J'aurais encore pu mentionner David d'Angers, qui réalisa mon buste, la comtesse de Lamotte-Langon, Rossini, Hector Berlioz aussi, mon cher ami Berlioz, qui a laissé plusieurs longues pages sur moi. Ah, et puis ça, écoutez, c'est un poème. À toi qui nous ravis d'une extase sublime, à toi qui du talent sut atteindre la cime, à toi, Paganini, l'être prodigieux, l'artiste, le grand homme, à toi, la couronne que d'hommages et de vœux notre amour environne, à toi, l'égal des rois et l'émule des dieux. Bon, la rime est facile, me direz-vous, mais ça m'a fait chaud au cœur en l'entendant. C'est en Belgique qu'on m'a écrit ça, à Mons, la première ville belge que j'ai visitée. Le soir du concert, on m'avait même lancé une couronne de laurier. Vous savez, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vraiment couru dans tous les sens. J'ai connu la Belgique, séjourné en France, arpenté l'Italie, j'ai traversé la Manche, passé du temps en Allemagne, et j'ai même poussé jusqu'à Prague et Varsovie. Oh, la cadence de mes concerts quand j'y repense, je ne sais même pas comment j'ai fait pour en enchaîner autant. Attendez que je retrouve mon agenda. Ah, ça y est. J'ai mis la main sur le programme du premier semestre 1828. Bon, c'est ce que j'appelle une petite tournée, hein. 12 dates à Vienne, dans 3 salles différentes. Große Redoutensaal, Hoftheater et Kärntner Theater. 29 mars, 18 et 20 avril, 4, 11, 13, 16, 20 mai, 12, 24, 27, 30 juin, 24 juillet. L'accueil de mon premier concert à Vienne avait été glacial. On avait colporté des rumeurs sur moi. Mais peu à peu, ils ont marché. Et à la fin, j'avais l'impression que j'aurais pu continuer comme ça à Vienne pendant des mois et des mois, tellement ils en redemandaient. Par la suite, il y a eu Karlsbad, Weimar et enfin Prague, où je suis tombé malade et j'ai dû me reposer un peu. Un peu, pas trop quand même. Thank you. les programmes que je donnais ont toujours été très généreux. Un concerto, une sonate, et puis généralement, des variations sur un thème connu écrit par un autre compositeur. Ça, le public en raffole. Par exemple, un capriccio sur le thème de L'Acci d'Arem la Mano du Don Giovanni de Mozart, une sonate sentimentale sur le thème de Dieu protège l'empereur de Haydn, et mieux encore, le larghetto et ses variations brillantes sur l'air Di tanti palpiti du Tancrède de Rossini. Un air que tout le monde a en tête et sifflote. Car pour comprendre ma musique finalement, il faut connaître et apprécier la mélodie et l'art vocal, tels que la pasta ou la malibran les chantaient à mon époque. Cet air, c'est celui-là. Un thème sur lequel je me déchaînais, que j'ai rebaptisé « I palpiti ». Un certain Karl Gour, directeur artistique du théâtre de Francfort, qui m'avait entendu plusieurs fois, a essayé de noter ce que j'avais apporté, selon lui, dans la façon de jouer du violon. Sans vouloir entrer dans les détails, je dirais que j'ai exploité jusqu'au bout les multiples possibilités du violon. J'ai étendu sa tessiture sur plus de 3 octaves et j'ai inventé des difficultés spectaculaires. Inventer, oui, mais c'était pour les résoudre. Double note dans l'aigu, staccato, harmonique, glissement chromatique, modification de l'accord, ce qu'on appelle scordatura en italien, etc. Ce monsieur Gour a aussi remarqué la façon dont mon corps s'inclinait pendant que je jouais, la combinaison des notes à l'archer et les pizzicati de la main gauche. Mes compositions pour la seule corde de sol, et puis ce qu'il appelle mon tour de force. Mais là, on dépasse le stade technique, on nage en pleine littérature. Il écrit « Je ne peux pas décrire ce dont il s'agit. Chaque personne l'entendant pour la première fois est à la fois excitée et étonnée. Paganini peut toucher les plus profonds gouffres de l'âme, ce qui est sans précédent. » L'effet est au-delà de toute description. Et oui. Thank you. Ce monsieur Gour ajoute encore « Il est à espérer que Paganini partagera certains secrets avec le monde entier. » Doucement, là. Je me suis bien gardé de dévoiler trop de secrets. Le violon a été mon gagne-pain, quand même. Ce n'est pas que j'aimais l'argent, mais en courant dans tous les sens et avec tous ces concerts aux quatre coins de l'Europe, j'ai amassé de coquettes sommes. Ah, et sur mon agenda, cette tournée en Irlande et en Grande-Bretagne en 1834. Y repenser me donne le tournis. Aberdeen, Duny, Kilmarnock, Carlow, Cork, Limerick, Dublin, Leamington, Newcastle, Liverpool, Salford, Buxton, Sheffield, Nottingham, Leeds, Manchester, Bolton, Sunderland, Doncaster, Glasgow, Edinburgh, Blackburn, Bolton, Leicester, Birmingham. Et je crois que j'en oublie encore quelques-uns rajoutés au dernier moment. En moyenne, c'était un concert tous les deux jours. Et je me déplaçais dans une voiture à chevaux. J'ai dû supporter la fatigue et toutes sortes d'inconvénients qui, peut-être, ont eu des influences sur mon jeu. En tout cas, j'ai griffonné dans mon journal, entre mars 1831 et mars 1832, 151 concerts en France et en Grande-Bretagne. Mes amis pourraient vous le confirmer, ma phrase favorite c'était « La vie étant fort courte, je veillerai à ne pas perdre de temps. » Parole de Paganini. J'ai joué, beaucoup, j'ai composé, assez copieusement, des concertos, des variations, des œuvres pour violon solo, des œuvres pour violon et piano, j'ai gagné de l'argent, mais j'ai aimé aussi, avec fougue. J'ai eu des aventures amoureuses assez rocambolesques, qui pourtant ne m'ont jamais empêché de poursuivre mon destin. La vie de famille, confortable, ankylosante, ah ça non, ça ce n'était pas pour moi. Et je crois même que bien après ma mort, j'ai inspiré « L'homme pressé » de Paul Morand. En tout cas, Pierre Niox, le héros, c'est tout moi. Cet homme si affranchi était crucifié sur deux aiguilles. Il en avait honte, mais la honte a-t-elle jamais guéri d'un vice? Ces minuscules ciseaux lui découpaient sa journée en secondes dont chacune, à force d'être trop précieuse, composait avec les autres un total parfaitement invivable. En amour, comme dans le reste, il procédait avec fougue. Mais dire « en amour », c'est exclure l'amour. Autant écrire « amour comme délice ». Pierre avait les dames à la régalade. Il les animait, les entraînait, les poussait dans les coins, se montait un peu la tête, se déchaînait subito. Tout à l'heure, je vous parlais de la Grande-Bretagne. Eh bien, c'est dans ce pays, au cours d'une tournée, que j'ai appris la mort de ma mère, Teresa. Maman m'avait donné la vie à Gênes le 27 octobre 1782. Mais c'est mon père, Antonio, qui m'avait initié au violon ainsi qu'à la guitare, un instrument que je maîtrisais très bien aussi. Mais le violon, c'était mon dada. À 10 ans déjà, je donnais des concertos en public, et à moins de 15, mes professeurs disaient qu'ils ne pouvaient plus rien m'apprendre. J'ai aussi suivi des cours d'harmonie, de contrepoint, de composition. Après Gênes, il y a eu Luc, un retour à Gênes, et puis tout est allé si vite. Mes premiers triomphes sont venus vers mes 20 ans, et mes 24 caprices, je les ai composés entre 1802 et 1817. J'étais quand même assez jeune. J'ai d'abord arpenté l'Italie avant d'aller remporter mes succès à l'étranger. Entre 1810 et 1812, voici ce que je retrouve. Casena, Forlì, Ravenne, Rimini, Modène, Reggio Emilia, Parme, Bologne, Ferrare, Piacenza. Je ne me suis plus jamais arrêté. Ou si peu. J'ai été happé par le tourbillon de la musique, par l'envie d'éblouir, par le goût du public, par le sens de la publicité, que je maîtrisais assez bien pour mon époque. Par exemple, quand j'ai débuté à Paris, en 1831, le prix des places a doublé. Comme on dit aujourd'hui, c'est un bon coup de marketing, non ? Cinq pieds, cinq pouces, taille de dragon. Visage long et pâle, fortement caractérisé, bien avantagé au nez, œil d'aigle, cheveux noirs, longs et bouclés, les prunelles étincelantes de verve et de génie voyagent dans l'orbite de ses yeux. Voilà ce qu'a écrit Castilblaze sur moi. Ajoutant, vendez tout ce que vous possédez, bradez tout, mais allez l'entendre. C'est le plus impressionnant, le plus surprenant, le plus merveilleux, le plus miraculeux, le plus inattendu des phénomènes jamais survenus. Vous aurez remarqué que je suis assez conscient de l'effet que je produis. Certes, ma musique reste une musique écrite pour le violon. Elle n'a pas marqué l'histoire. Il n'empêche que l'un de mes caprices a inspiré Rachmaninoff. et que Liszt a repris un extrait de mon deuxième concerto dans la Campanella. Mais ma santé a faibli et je suis décédé le 27 mai 1840 à Nice, quelques semaines seulement avant mes 58 ans. J'ai pris soin d'écrire ma propre autobiographie dès 1828, non sans coquetterie, puisque je m'y rajeunis de 2 ans et que je parle de moi à la troisième personne. Et alors, ça vous choque ?
France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer. Comme si vous y étiez, Jérémy Rousseau, France Musique.
Paganini continue de courir, le voici par quelques serviteurs et admirateurs, Salvatore Accardo, Julia Fischer, Pierre Fournier, sans oublier un certain Franz Lehár.
Thank you. Thank you.
Comme si vous y étiez, Jérémy Rousseau, France Musique.
Nous avons entendu de Paganini la sonate Napoléone et l'adagio du deuxième concerto pour violon, la Campanella, par Salvatore Accardo, l'Orchestre Philharmonique de Londres, dirigé par Charles Dutoit, le dixième caprice pour violon seul par Julia Fischer, les variations sur la corde de sol sur un thème de Rossini par Pierre Fournier, et un extrait du Paganini de Franz Lehár par Jonas Kaufmann. Tous les détails sont à retrouver sur francemusique.fr où vous pouvez également réécouter et podcaster ces émissions. Comme si vous y étiez, avec la collaboration de Massimo Bellini, Valérie Lavallard et Margot Muller, vous donne rendez-vous samedi prochain à 17h sur France Musique au programme Rameau touche le gros lot.
À réécouter sur francemusique.fr.